c'est une croissance qui a été très, très forte. Là. Comme tu disais, le chiffre, là, je pense que c'était pas loin de 4000%. Donc, littéralement, en l'espace là, de quelques mois, ben, quand on parlait avec notre service de ressources humaines, ben, c'était plus on a besoin de 2-3 personnes ici et là. C'était, ben, on va embaucher 120 personnes pour faire le service pour cette période-ci. Puis après ça, on en a besoin aussi d'un autre 100 personnes supplémentaires.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 95e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Pendant 7 années de suite, mon invité du jour a vu son entreprise figurer dans les 500 organisations en plus forte croissance au Canada. Jean-Philippe Béhic a lancé en 1997, à l'âge de 14 ans seulement, l'organisation E-Box qui deviendra 25 ans plus tard un joueur redoutable dans la télécommunication au Québec. Avec maintenant plusieurs centaines d'employés dans son équipe, Jean-Philippe nous raconte aujourd'hui l'évolution impressionnante que son entreprise a vécue au cours des années en ayant constamment eu à se battre contre des géants de l'industrie. Dans l'entretien qui dure près d'une heure, on aborde des sujets propres à l'industrie de e-box, comme le lobbying politique, la croissance rapide, la recherche de personnel constant et plusieurs autres points qui ont amené son entreprise à croître de près de 4000% de 2000 à 2016. Sans plus attendre, ma discussion avec Jean-Philippe Béhic. Jean-Philippe Béhic, vous êtes le président et cofondateur de l'organisation E-Box, une entreprise de télécommunication lancée en janvier 1997. Vous avez lancé l'entreprise à seulement 14 ans et au cours de votre parcours entrepreneurial, vous avez été capable d'apparaître pendant 7 années de suite au registre des 500 entreprises en plus forte croissance au Canada. Jean-Philippe Béhic, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup, puis bonjour à vos auditeurs.
Puis bon, Jean-Philippe, je l'ai dit plus tôt, de lancer ton entreprise à 14 ans seulement, peux-tu partager avec l'audience des hypercroissances qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer si jeune en affaires?
C'est une bonne question. En fait, je dirais que j'ai toujours eu une certaine motivation là, instinctive à gérer mes propres choses, puis une fascination pour le monde informatique en même temps. Puis l'informatique puis le web en particulier, c'était en boom très fort vers la fin des années 90. Donc, c'était facile d'avoir de l'inspiration. Il y avait énormément de plateformes et de nouveautés qui émergeaient sur le web. Et j'avais, une fascination là, pour ce monde-là et le monde des affaires à la fois. Donc, c'est ce qui m'a poussé à essayer de faire un petit peu d'argent avec tout ça.
Fascination du monde des affaires à 14 ans. Est-ce que c'est une histoire de famille? Est-ce que tu viens d'une famille où les affaires, on discutait de ça autour d'un souper, autour d'un déjeuner le week-end? Est-ce que ça faisait partie de ta routine quotidienne?
Oui et non. Écoute, je te dirais, moi, je viens d'une famille du monde de la finance. Donc, c'était pas des gens qui étaient entrepreneurs directement comme moi, mais on parlait quand même beaucoup là, du monde des affaires, des entreprises, de qu'est-ce qui se passait. Donc, ça, c'était intéressant. Et j'ai eu une certaine influence, je te dirais, invisible en quelque sorte, parce que la seule personne là, qui baignait dans l'entrepreneurship, là, c'était... mon grand-père, que j'ai jamais connu, en fait, est décédé avant que je naisse. Et lui était dans le monde des affaires là, jusqu'au cou. Là. Il était, c'était un homme d'affaires là, très, très important dans la région de Québec. Il a parti notamment là, le Carnaval de Québec, mais aussi était gestionnaire de la Shawinigan Power avant que ça soit nationalisé avec Hydro-Québec. Puis également, il a fait partie de la société de développement du Mont-Saint-Anne. Donc, il a apporté les premiers T-bar et téléphériques là, sur le Mont-Saint-Anne. Donc, je te dirais, j'ai été inspiré beaucoup par son parcours, mais je n'ai pas connu l'homme. Donc, c'est ce qu'on peut dire un peu là, sur le petit côté familial. Là.
Puis, je continuerai un petit peu dans cette lignée-là, Jean-Philippe, avant de parler de E-Box et tout ce qui vient autour de ça. Donc,
14 ans, tu lances ton organisation. Bon, bien entendu, tu mettras pas le même sérieux à 14 ans que tu en mets aujourd'hui dans ton organisation parce que tu as plus de maturité et tu comprends plus ce qui se déroule autour de toi. Ça ressemblait à quoi gérer une entreprise à 14 ans? Est-ce que tu allais à l'école en même temps? Est-ce que tu as décidé de tout mettre tes œufs dans le même panier puis te concentrer à 100% dans le développement de ton entreprise?
Non, j'allais à l'école en même temps, puis c'était absolument interdit dans ma famille là, d'abandonner l'école, même si tu avais un projet qui était très, très, très payant ou qui fonctionnait très bien. Ça prenait toujours un backup ou un plan B en quelque sorte si les choses fonctionnaient pas. Donc, évidemment, à 14 ans, là, j'étais aux études. Par contre, là, l'entreprise a consommé là, beaucoup, beaucoup d'heures de ma jeunesse. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de nuits blanches, je te dirais, là, à faire ça.
C'est ce qui devait occuper pas mal de tes week-ends au départ. Puis là, par la suite, j'imagine que tu as pris de l'ascendant sur tout ça. Et parlons-en un petit peu de l'évolution parce que c'est assez exceptionnel. Il y a beaucoup d'articles de presse qui sont sortis sur votre entreprise au cours des dernières années. Et on est capable clairement de voir un shift dans votre croissance. Donc, j'amène un petit peu l'audience ici. Puis corrige-moi si je me trompe, là, bien entendu, Jean-Philippe. Donc, j'ai cru voir que de 1997 jusqu'à 2007, l'entreprise évoluait, mais était encore un plus petit nombre d'employés. Il y a eu un chiffre qui a eu énormément d'accélération à partir de 2007 et surtout à partir de 2010, où est-ce qu'à partir de 2010, vous avez été pendant plusieurs années d'affilée dans les plus grosses entreprises en croissance au Canada. Peux-tu nous parler un petit peu de ces différentes étapes-là dans la vie d'une entreprise, les 5, les 10 premières années et par la suite, comme je l'ai dit, l'élément déclencheur qui vous a fait passer en hypercroissance?
Ben, en fait, je te dirais, il y a plusieurs manières de faire croître une entreprise, puis il y a beaucoup de gens qui utilisent du venture capital ou des manières d'accélérer en quelque sorte là, la croissance. Nous, ça n'a pas été le cas. On a vraiment bâti à partir de zéro cette entreprise-là. Et je tiens à mentionner là, qu'on n'a pas eu aucune entreprise là, qui est venue prendre une participation financière dans la société. Donc ça a fait en sorte que c'est sûr que si tu pars pas avec des millions de dollars pour acheter de l'inventaire, pour faire de la publicité, des choses comme ça, ta réputation, tes process, puis tout ça, tu dois tout faire ça à partir de les moyens du bord. Donc c'est ça qui a pris plusieurs années. Les premières années qu'on a bâti l'entreprise, on a fait ça avec l'aide des forums internet, puis le bouche à oreille a aidé, mais c'était très lent là, la vitesse à laquelle on accumulait des nouveaux clients. Par contre, tranquillement pas vite, nous autres en même temps, on apprenait à gérer une entreprise parce que partir de zéro puis s'en aller directement avec plusieurs millions d'heures de chiffre d'affaires, tu peux faire beaucoup d'erreurs. Puis ce genre de croissance un peu plus lente au départ nous a permis d'établir un peu les fondations de l'entreprise, mais aussi de notre compétence en tant que gestionnaire là, pour mener à bien un projet comme ça. Et à partir de 2007-2008, là, on a commencé à avoir quelques milliers de clients. Et ça nous a permis là, de vivre la phase de croissance là, principale là, qui s'est passée vers, je te dirais, 2008, 2009, 2010, en montant jusqu'à 2016-2017, où il y a eu extrêmement de croissance. Puis qu'est-ce qui a expliqué la croissance? Bien, il y a eu deux choses. On avait une bonne capacité, une bonne compréhension des business process puis tout ça à l'intérieur. Puis on savait bien faire le service à la clientèle. On le faisait nous-mêmes, en fait, avec les consommateurs. Et de deux, l'environnement réglementaire s'est largement assoupli vers le 2010-2011. Le CRTC, grâce aussi à l'intervention des conservateurs à l'époque, ont libéralisé un peu le marché, ont rendu ça plus accessible pour les concurrents comme nous autres. Et ça a fait en sorte que eBox devenait un candidat très sérieux comme alternative pour les gros joueurs. On a été victime un peu de publicité gratuite là, de la part des différents médias qui nous ont cités en exemple. Puis ça a fait en sorte que ça a catalysé beaucoup, beaucoup de trafic vers nous autres. Puis on était, comme je disais, sérieux et capable de livrer la marchandise aussi, étant donné qu'on avait fait un peu nos classes durant la décennie précédente.
Tu as parlé de relations publiques pour attirer des gens vers votre site web, vers votre entreprise, faire connaître littéralement le brand, autre que ce qui s'est déroulé au niveau des relations publiques. Avez-vous eu des anecdotes à partager avec l'audience aujourd'hui de techniques, de campagnes qui vous ont vraiment mis sur la map? Parce que, bien entendu, vous êtes une entreprise qui vous adressez globalement, plus souvent qu'autrement, à des particuliers. Donc, vous avez un gros segment de clientèle à aller chercher. Vous travaillez également avec des entreprises. Quels ont été, autres que le volet relations publiques, les initiatives, les efforts que vous avez faits pour faire connaître l'entreprise au début des années 2010?
C'est sûr qu'on a fait de la publicité, des choses comme ça, donc un peu plus traditionnel. Donc, on a investi à partir de ce moment-là des sommes importantes. On a fait affaire avec des agences de com pour faire de la publicité traditionnelle à la télévision, à la radio. On a fait du out of home aussi un peu partout. Fait qu'on on a fait beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais aussi, le côté relations publiques a été non négligeable parce que, en fait, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est devenu un peu chouchou, en quelque sorte, des médias. Parce que, littéralement, à chaque fois que le CRTC faisait quelque chose, on avait un coup de téléphone de la part des médias. Mais je pense que, avec un petit peu d'introspection, je pense que une des choses que les gens appréciaient, c'est que on était de un accessible pour les gens qui font le travail de journaliste, mais aussi on était capable de vulgariser les concepts puis qu'est-ce qui se passait sur le marché. Donc c'est des sujets qui sont compliqués. Tout ce qui touche au CRTC, ça peut facilement endormir quelqu'un. Puis nous autres, on prenait le temps de s'asseoir avec les journalistes, de leur expliquer qu'est-ce qui se passait, l'historique, etc., etc., pour en arriver à une certaine compréhension là, de qu'est-ce qui se passait. Puis ça l'a permis d'être un peu les go-to person pour répondre aux questions sur le marché. Puis on citait toujours Ebox en exemple. Donc, ça a fait un peu de la publicité gratuite. Donc, c'est un peu ça, là.
Intéressant. Bon, le chiffre là qui va sûrement faire cligner des yeux notre audience aujourd'hui quand ils vont entendre ça, c'est 3700%. Donc, ça, c'est le chiffre qu'on a été capable de sortir de votre croissance de 2010 à 2016. Donc, vous êtes rendu, je crois, en 2016-2017, des centaines et des centaines d'employés, peut-être même 500 employés, je pense que tu m'avais dit dans une discussion au téléphone la semaine dernière, quand vous étiez atteint à vraiment votre plus haut chiffre de croissance. Qu'est-ce qu'un dirigeant d'entreprise doit adopter dans sa manière de diriger, de motiver ses troupes dans une période de croissance aussi rapide? Parce que là, on s'entend, en l'espace de quelques mois, l'espace peut-être même de quelques années, l'entreprise change totalement de visage. Donc, les processus changent, votre manière de gouverner change. Peux-tu nous parler, as-tu des anecdotes à partager avec l'audience aujourd'hui et également nous dire les enjeux reliés à une croissance aussi rapide?
Bien, c'est une croissance qui a été très, très forte. Là. Comme tu disais, le chiffre, là, je pense que c'était pas loin de 4000%. En l'espace là, de quelques mois, ben quand on parlait avec notre service de ressources humaines, ben tu sais, c'était plus on a besoin de 2-3 personnes ici et là. C'était on va embaucher 120 personnes pour faire le service pour cette période-ci. Puis après ça, on en a besoin aussi d'un autre 100 personnes supplémentaires. Bref, on consommait comme jamais auparavant des ressources. On avait besoin de... tout était en expansion. Le réseau était en expansion. Il y avait des travaux qui se passaient là-dessus. On avait aussi besoin de plus d'espace à bureau parce que le télétravail, ben c'était pas encore à la mode là, en 2010. C'était dans les débuts, mais bon, c'était pas la plupart des gens travaillaient dans des bureaux. Donc, on avait besoin de pieds carrés supplémentaires. Fait qu'on avait des projets supplémentaires d'expansion dans toutes les sphères de l'entreprise. Puis ça, il fallait le faire aussi avec les moyens du bord. Encore une fois, on n'était pas accompagné par des intérêts financiers externes. Il n'y avait pas de banque qui était derrière nous. On utilisait l'argent qu'on générait financé avec l'argent qu'on était capable d'extraire là, des abonnements qu'on faisait avec les clients. Fait qu'il fallait faire très, très, très attention à notre efficacité, à notre profitabilité pour être capable de réinvestir dans toute cette croissance-là. Puis ça n'a pas toujours été très, très facile, évidemment, de faire ça, là, puis en même temps faire un certain profit. Là.
Puis, ça t'est pas venu en tête à un certain moment donné, Jean-Philippe, de juste aller chercher de l'aide à l'externe. Je trouve ça très noble et même exceptionnel que vous ayez gardé cette équité-là vous-même, toi et ton partenaire d'affaires. Peut-être que d'autres gens qui ont un certain pourcentage, mais ça t'est pas venu en tête de dire, tu sais quoi, pour aller vraiment chercher les parts de marché, cette croissance-là qui est à nos portes, allons prendre un prêt, allons prendre un investissement externe, travaillons avec un venture capitalist. Ça t'est pas venu en tête jamais, ça?
Ah, totalement, ça m'est venu en tête. On a même eu des discussions avec avec différentes personnes là, qui sont dans le domaine. Puis je te dirais qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été mises sur la table pour pouvoir prendre justement de l'équité dans l'entreprise, puis rajouter des millions de dollars, tout ça. Par contre, le problème avec les entreprises là, qui font du venture cap, tout ça, c'est souvent ils vont avoir une vision financière de qu'est-ce que ça devrait être. Eux autres sont là pour évidemment faire un retour sur investissement, puis je blâme aucune personne qui est dans ce métier-là. C'est totalement normal de vouloir avoir une rentabilité sur son investissement. Mais nous autres, on était là pour un peu plus une cause en quelque sorte. On voulait absolument régler le problème au niveau des télécommunications au Canada, puis on ne veut pas avoir une influence externe de la part de gens qui sont dans le domaine de la finance puis qui ne comprendraient pas notre vision des choses, puis que tout serait drivé par une rentabilité qui doit être faite d'ici X nombre de mois ou X nombre d'années, puis respecter tel ratio, etc., etc. Donc, notre désir de pas altérer notre vision avec celles qui ont des intérêts qui étaient divergents de nous autres a fait en sorte qu'on a fait cavalier seul. Ça a peut-être été au détriment d'une croissance encore plus forte. Ou peut-être que, au contraire, ça nous a permis de garder la flamme puis de pas modifier notre ADN en quelque sorte.
Intéressant.
Ça, on le saura pas.
Ben, au final, si on regarde les chiffres, peu importe ce qu'on dira, les chiffres parlent pour vous. Donc, peut-être que les investisseurs externes auraient pu vous aider, mais 3700%, je pense que beaucoup d'entreprises qui aimeraient ça, voler ce chiffre-là présentement et de le mettre dans leur propre livre de croissance. Donc, au final, vous en êtes très, très bien tiré. Tu as utilisé un terme, Jean-Philippe, tu as parlé de cause. Tu as parlé de cause, c'était ça qui vous tenait à cœur, faciliter les télécommunications, rendre ça davantage accessible. On en parlait brièvement, toi et moi, récemment au téléphone, où tu me disais qu'une bonne partie de ton temps va être relié à aller parler avec des politiciens, à s'assurer que les bonnes règles soient là pour tout le monde, que le consommateur soit au cœur de l'équation, qu'il soit capable de gagner, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la télécommunication. Il y a des endroits dans le monde où est-ce que c'est drastiquement moins cher avoir un téléphone, avoir accès à Internet. Au Canada, c'est sensiblement dispendieux. On voit beaucoup d'articles dans les journaux en ce moment faisant état de la situation. Qu'en est-il de ton travail à aller rencontrer ces politiciens-là? Et également, qu'en est-il de l'état des télécommunications au Canada?
Ben, en fait, je pense qu'il faut retracer là, un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi qu'on veut comme régler le problème des télécommunications au Canada. C'est probablement né du fait qu'on a fait, moi, mon associé, puis aussi les gens qui ont été là dans les débuts, on était en relation directe avec le client. Donc, on n'a pas été catapulté dans un siège d'entreprise là, qui a des centaines de milliers de clients du jour au lendemain. Donc, on a acquis chaque client un par un en entendant leur histoire, en entendant leur doléance sur leur ancien fournisseur de télécommunications, puis à quel point ça s'était mal passé, puis à quel point c'était cher. Donc, à un moment donné, quand tu baignes tout le temps dans des messages comme ça avec les consommateurs, ça vient t'altérer aussi un peu comme être humain. Tu sais, tu prends le problème sur toi, puis tu fais comme, ben écoute, il y a vraiment un problème, puis moi, j'ai une solution pour ça. Donc, c'est devenu un peu notre mission de rendre ça correct pour les consommateurs, parce que les grandes entreprises de télécommunications, c'est pas toujours le consommateur qui est au centre de leurs décisions. C'est très drivé par la profitabilité, puis par, bon, en fait, c'est le retour pour l'investissement des actionnaires. Donc, ta question, c'est à savoir comment ça se passe après ça sur le terrain avec les politiciens, puis avec tout ça. Ben, je te dirais qu'il faut toutes ces choses-là, toutes ces politiques-là n'arrivent pas, tombent pas du ciel. Hein. Il faut faire des pressions. Puis, on a un cadre qui a été établi par le CRTC pour avoir de la compétition au Canada, parce que les gros joueurs reçoivent des subventions pour bâtir l'infrastructure. Mais ils sont protégés d'avoir de la concurrence sur le marché et ça devient pratiquement impossible de dupliquer ces infrastructures-là. Donc, de un, eux, ils reçoivent en grande partie 90 % des frais de construction sont subventionnés. On le voit en ce moment dans les régions rurales qui n'ont pas accès à l'Internet haute vitesse au Québec, puis même en Ontario. Les projets d'infrastructure, de déployer des nouveaux territoires, la facture, elle est couverte là, à 90 % dans la plupart des cas. Donc, littéralement, nos taxes en tant que citoyens servent à ce que ces grandes entreprises-là aillent développer du nouveau marché. Le 10 % supplémentaire, c'est eux autres qui vont le payer à même leur profitabilité. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que y a pas de concurrence. Il y a personne qui va arriver qui va dire bah, ben moi je vais passer un deuxième câble supplémentaire ou un troisième câble supplémentaire. Ça fait pas de sens financièrement. C'est des modèles d'affaires qui ne fonctionnent pas. Et donc le CRTC a eu l'idée d'avoir de la concurrence qui est basée sur le service. Donc, les concurrents qui sont basés sur le service, comme nous autres, ne vont pas bâtir en double, en triple ou en quadruple l'infrastructure, mais vont utiliser l'infrastructure existante en contrepartie d'un tarif qui est réglementé par la commission. Mais la commission, quand elle établit ces tarifs-là, c'est un long prélude pour revenir pour répondre à ta question, mais la commission, quand ils doivent établir un tarif, évidemment, les gros joueurs ont tout intérêt à ce que ce tarif-là soit le plus haut possible pour que les concurrents ne leur fassent pas trop mal puis viennent pas prendre trop de parts de marché. Donc, nous autres, notre travail, quand on est devant la commission puis devant le CRTC, c'est de faire en sorte que le tarif soit le plus juste possible pour les deux parties. Donc, il faut qu'on ait un tarif qui fait en sorte que le gros joueur ne perd pas d'argent quand il ajoute un nouveau client chez une entreprise comme nous autres. Donc, il doit être payé de manière juste pour l'utilisation de l'infrastructure. Mais il ne doit pas être surpayé parce que s'il est surpayé, évidemment, ça fait en sorte que les prix sont trop élevés dans le marché et la concurrence n'est pas capable de naître ou de s'établir correctement. Donc, le travail est constant parce qu'il y a une bataille, une dualité. Là, ici, tu as les entreprises qui détiennent les infrastructures et qui, en même temps, compétitionnent pour les mêmes clients qui doivent établir devant le CRTC un tarif. Et leurs intérêts sont totalement divergents des nôtres. Donc, il faut qu'on fasse des représentations constantes dans à peu près tous les dossiers pour protéger ce marché-là. C'est très, très fragile comme écosystème.
Puis ça, c'est ton rôle présentement, 50 % de ton temps en tant que dirigeant, 30 % 80 %, ça ressemble à quoi?
Ah, dernièrement, ça a été, je te dirais que ça a occupé une grande partie de mon temps. Évidemment, ça va et ça vient, c'est pas toujours avec la même intensité. Là, en ce moment, on a eu un petit peu plus de revers. Le CRTC a pris une tangente qui était un petit peu plus pro-grande entreprise ou pro-entreprise qui ont des infrastructures. Là, évidemment, on a le vent d'en face un petit peu plus que par le passé. D'où le fait que je passe plus de temps à faire ce type de représentation-là. Mais il y a des périodes où est-ce que ça peut être un petit peu plus calme, puis on se concentre sur les activités quotidiennes.
Je suis curieux, Jean-Philippe, je te pose une petite question technique. Donc, on l'a vu en Europe, des fois, il y a des joueurs qui peuvent arriver, s'intégrer, sensiblement casser le marché. C'est un petit peu ça l'expression qu'on pourrait utiliser en termes de prix. Dans les subtilités des réglementations avec le CRTC présentement, est-ce que ça serait quelque chose de possible au Canada où automatiquement cette entreprise-là se ferait mettre des bâtons dans les roues par les réglementations peut-être que tu as à combattre à tous les jours ou que tu as à comprendre à tous les jours?
Casser le marché, c'est sûr que ça serait bien pour les Canadiens en autant que ça ne vient pas affecter la qualité des réseaux qu'on a ici au Canada. Il faut faire attention. Il y a un équilibre à faire. C'est sûr que si on disait demain matin, l'Internet, au lieu de coûter 60 à 80 $ par mois, ou peut-être un peu moins, ou peut-être un petit peu plus, dépendamment de votre cas, puis on fait passer ça, je ne sais pas moi, à 20 $ par mois, mais là, ça peut avoir de sérieuses conséquences sur la capacité de réinvestir dans les infrastructures, de moderniser. Donc, il faut trouver une juste balance. Évidemment, c'est ça un peu notre rôle, c'est de trouver la bonne balance pour faire en sorte que les consommateurs ne sont pas lésés, mais que aussi les bâtisseurs d'infrastructures ne sont pas lésés. Et la meilleure chose à faire, c'est de regarder les comparables mondiaux. puis tu as totalement raison. Là, il y a extrêmement beaucoup de preuves là, qui sont disponibles en ce moment pour montrer que les prix ne sont pas ce qu'ils pourraient être. Mais il faut comparer des pommes avec des pommes. T'sais, des fois, les gens comparent un petit pays à un pays comme le Canada. Évidemment, c'est pas toujours juste parce que la quantité de capital requise pour bâtir les infrastructures au Canada est probablement plus grande que dans un pays comme la Suisse ou certains pays en Europe qui ont pas la même géographie. Mais ça n'excuse pas non plus tout. Et c'est pas parce que le Canada est un pays plus grand que les prix doivent être trois fois plus chers. Il y a des comparables dans d'autres pays où est-ce que ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres à faire, une densité de population qui est très faible et qui sont capables d'arriver avec quelque chose qui est bien meilleur que ce qu'on a ici. Donc, rendu là, c'est là l'enjeu, puis c'est là le travail de faire en sorte que le système est juste pour le consommateur, mais aussi pour... Le consommateur veut toujours le prix le plus bas possible, mais à un moment donné, il faut faire attention aussi parce que si on va trop bas, on se retrouve aussi à affecter la qualité. Mais si on va trop haut, on fait juste enrichir les actionnaires. Puis c'est une balance très, très, très difficile.
Je comprends. Puis bon, peut-être avant de revenir un petit peu plus au volet affaires, là, on enregistre le podcast aujourd'hui, 7 septembre 2021. Le podcast devrait sortir la semaine prochaine. Ça devrait être, je crois, le 13 septembre 2021. Donc, on va être à une semaine près de l'élection, peut-être un petit peu plus. Donc, je pense que c'est vers la fin septembre. Comment qu'ils se positionnent, les partis fédéraux, par rapport à toute cette dynamique-là au niveau des télécommunications présentement?
Super bonne question. En fait, tu as raison, les élections s'en viennent à grands pas. Donc, ça va être notre rôle en tant qu'électeur de choisir un parti qui représente nos valeurs. Je vous dirais en ce moment que les deux partis là, qui sont très bien positionnés pour le problème d'abordabilité au niveau des télécommunications, c'est le Parti conservateur et le NPD. Donc, ces deux partis-là ont des propositions qui sont intéressantes. Et j'exclus le Parti libéral ici de manière totalement volontaire. Ils n'ont pas de plan officiel dans leur plateforme électorale de 2021, alors qu'ils avaient un plan en 2019. Et leur plan en 2019, lorsque Justin Trudeau a été élu, parlait d'abordabilité puis de baisse de prix dans le service de télécommunication. Par contre, M. Trudeau n'a pas été en mesure de faire en sorte que les Canadiens payent moins cher en télécommunications. Et donc, c'est pourquoi je mentionne que le Parti libéral n'est pas là en matière d'abordabilité puis de concurrence dans les télécommunications. Ils ont fait, alors qu'ils étaient au pouvoir, le Parti libéral a fait en sorte que la réglementation du CRTC est allée plus du côté des entreprises là, qui sont les géants des télécommunications actuellement et moins pour les fournisseurs qui sont là pour faire la concurrence. Donc, ça a fait en sorte que, en fait, leurs décisions, leurs actions qu'ils ont faites politiquement vont faire en sorte que les Canadiens vont se retrouver à payer plus cher leurs services de télécommunications. Alors, si les libéraux sont réélus, malheureusement, c'est très probable qu'on se retrouve avec des tarifs de télécommunications qui vont aller en augmentant de plus en plus. Alors que le parti NPD, le parti conservateur, semble avoir ce problème-là un petit peu plus à cœur. Maintenant, est-ce qu'ils vont bien réaliser le mandat? Ça reste à voir. Il y a beaucoup de promesses, mais des fois, ça ne livre pas toujours. Mais bon, ce sont les deux partis qui, en ce moment, s'intéressent à la question et qui peuvent changer la donne puis peut-être faire en sorte que les prix soient plus raisonnables au Canada.
Intéressant. Jean-Philippe, je reviendrai un petit peu plus au volet affaires. Un truc qui m'a grandement fasciné de votre organisation et de votre développement au cours des années, c'est, et corrige-moi si je me trompe encore une fois, tu es le fondateur gestion dans l'entreprise, mais j'ai l'impression qu'il y a également un cofondateur plus technique. Vous partagez une relation depuis un paquet d'années maintenant, depuis le tout début. J'ai l'impression que vous êtes toujours ensemble. Comment ça se déroule, un partenariat entre deux fondateurs pendant aussi longtemps de ça? Est-ce que ça a été peut-être long de trouver qu'est-ce qu'un doit faire comparativement à l'autre? Est-ce que vous êtes marché sur les pieds? Est-ce qu'au contraire, c'est super clair, les mandats de chacun? Parle-nous un petit peu là, de cette dynamique-là.
Oui, en fait, c'est ma relation la plus longue à vie, mais bientôt 25 ans. Donc, félicitations à mon partenaire s'il écoute le podcast un jour. On souffle nos noces de je sais pas quoi, là, mais ça commence à être une longue relation, on peut dire ça comme ça. Ben, mon partenaire mais c'est un gars qui était plus intéressé par le côté technique des choses, puis moi un petit peu plus par le côté des affaires. Mais il n'y a pas on n'a pas tranché de manière parfaite là, que un fait juste du technique puis l'autre fait juste des affaires. Donc évidemment, il a fallu que on fasse tout avec rien dans le passé. Donc ça impliquait que j'ai fait du technique, que j'ai, à titre d'exemple, j'ai installé des systèmes d'exploitation Linux sur des serveurs, j'ai monté des racks, du réseau dans les racks, du BGP, bref, tu sais, j'ai été vraiment dans le technique hard à 100%, je comprends les concepts là, tu sais, j'ai été dans les affaires là, dans les affaires super techniques. Lui, de son côté, est allé dans les affaires plus corporatives aussi, qui ont une très, très bonne connaissance là, du côté corporatif de la chose. Donc, je te dirais que tu sais, on drift un petit peu à gauche, après ça un petit peu à droite. T'sais, s'il y a des projets des fois qui nous intéressent plus, bon ben lui, tu sais, il va prendre un projet technique à 100%, puis avec un petit peu d'administratif. Après ça, ben, t'sais, moi j'en fais aussi. Il y a une sur-spécialité technique de son côté, mais moi, de mon côté, j'en fais aussi un petit peu, puis j'en faisais aussi, en fait, de manière plus intensive dans les débuts. Fait qu'il y a pas eu, tu sais, vraiment comme, c'est pas blanc ou noir, dire qu'il y en a juste un qui fait ça, puis l'autre fait juste ça, puis on se pile pas sur les pieds. Donc, tu sais, ce que je peux dire là-dedans, c'est que c'était nécessaire à faire cette hyper-croissance-là, là. Parce que si c'était à reposer tout sur les épaules d'une seule personne, ben tu sais, ça aurait été difficile. Puis ça a été difficile déjà là. Tu sais, on a fait de l'hypercroissance, puis mon associé a été très 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 extraordinaire là à faire là, des pieds et des mains avec pas grand chose. Mais il a fallu aussi tu sais que je participe là à comprendre des concepts techniques. Je peux pas juste dire parce que c'est technique, je touche pas à ça. Non, tu sais, il a fallu que j'aille dans les mains, dans la mécanique, puis que j'essaie de comprendre vraiment le concept pour pouvoir savoir de quoi je parle, puis après ça, faire caler des bonnes shots, puis qu'on aille plus vite dans nos décisions.
Mais c'est incroyable, pareil, vous êtes toujours ensemble après 25 ans. Il n'y a pas eu peut-être à un certain point, à un moment donné, des discussions, des questionnements, comme quoi peut-être un était moins intéressé au développement de l'entreprise, peut-être qu'il allait commencer à penser à d'autres projets, parce que je crois, là, on va bientôt arriver au 100e épisode d'Hypercroissance, que c'est la première fois que je vois deux partenaires ensemble aussi longtemps.
Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Non, je te dirais que, tu sais, on est deux gars qui ont à peu près le même âge, beaucoup d'ambition, on a voulu que ça fonctionne bien, on veut que ça fonctionne bien, tu sais, on est très, très drivé par la qualité, tu sais, par la perfection, s'assurer que le client, tu sais, le samedi, dimanche encore, on se parle, puis là, on est comme, hey, y a un client qui a dit telle affaire, puis, tu sais, on surveille constamment qu'est-ce qui se passe, même après 25 ans, mais c'est un peu la beauté aussi d'avoir commencé jeune. Tu sais, on n'est pas rendu brûlé par la vie, rendu t'es vieux, près de la retraite, des choses comme ça. Donc, on est encore des jeunes entrepreneurs ou, mettons, un moyen âge, là, en quelque part. Là. Mais,
dans la fleur de l'âge.
C'est ça. On est dans la fleur de l'âge. On a encore la capacité de livrer pour plusieurs années, plusieurs peut-être même plusieurs décennies si nécessaire. On s'entend bien, puis on s'entend même, je te dirais, mieux qu'avant. Là, on commence à vraiment bien se comprendre, puis je pense que la maturité aussi, on a gagné en âge, puis ça a fait en sorte que justement on se comprend mieux.
Intéressant. Puis à quoi ressemble le futur, l'avenir de eBox? Parce que peut-être que vous avez encore des envies de croissance. Peut-être que vous avez pensé ou vous commencez à penser à vendre l'organisation. À quoi ça ressemble les prochaines années, le futur de votre entreprise?
Ben, le futur pour Ebox, en fait, c'est qu'on n'arrête jamais d'avoir des idées. Hein. Puis ces idées-là, il faut qu'on les mette en action. Donc, je peux te dire que dans les prochains mois, une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va livrer une version 100% numérique de notre marque, où les consommateurs pourront économiser en utilisant une plateforme 100% en ligne. Par contre, l'avantage qu'on va avoir, c'est que par rapport aux autres qui ont des plateformes de télécommunications numériques, c'est que le consommateur pourrait revenir à un service plus traditionnel en restant chez Ebox si le besoin se fait sentir. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. C'est une sécurité de plus aussi pour les gens qui sont de plus en plus connectés puis qui relient de plus en plus sur les télécommunications avec le télétravail et tout ça. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on livre, en fait, à partir de lundi prochain. La semaine prochaine, c'est-à-dire, si je regarde mon calendrier, c'est une semaine de 13. Donc, le 13 septembre, on va commencer à avoir notre première itération là, de service 100% en ligne. Donc, les gens vont pouvoir, sans parler avec un humain, faire 100% de leurs transactions sur notre site web. Et ça, c'est un des exemples de choses sur lesquelles on travaille. Évidemment, il y a plein d'autres projets sur lesquels on travaille. Donc, on n'est pas du tout au neutre. On est très actif. Donc, on espère évidemment que la réglementation va s'assouplir et devenir meilleure pour avoir des phases de croissance encore plus fortes dans le futur. Peut-être aussi une réglementation un petit peu plus assouplie au niveau de la mobilité parce qu'on n'a pas de bonne réglementation en ce moment pour des joueurs comme nous autres. C'est vraiment un terrain de jeu pour milliardaires en ce moment, là, la mobilité. Puis c'est une chasse gardée aussi. Là. Donc, il n'y a pas de concurrence autre que si tu as un compte de banque dans les 10 chiffres en montant, là, si ce n'est pas un compte de banque dans les 11 chiffres. Donc, on travaille fort aussi là, du côté lobbying pour s'assurer que ce côté-là puisse porter fruit pour les consommateurs dans les prochaines années.
Merveilleux. Histoire fascinante, très belle entreprise que tu possèdes, Jean-Philippe. J'aimerais terminer sur des questions un petit peu plus personnelles que je pose à tous mes invités. Et là, pour la première fois la semaine dernière, quelqu'un m'a dit qu'il ne lisait aucun livre d'affaires et j'ai été quasiment choqué, mais à la blague plutôt. Est-ce que tu lis un peu des livres d'affaires pour quelqu'un qui s'est lancé aussi jeune? Il a fallu que tu prennes ton apprentissage quelque part. Comment ça se déroule un petit peu là, ton volet éducation du monde des affaires?
Ouais, ben, je te dirais, dans les premières années, j'ai pas eu beaucoup de temps de faire de la lecture, si c'était pas sur le web, puis de la documentation technique sur, je sais pas, whatever, là, tu sais, comment fonctionne un système d'exploitation Junos ou des choses comme ça. Donc, j'ai pas eu la chance, là, de faire beaucoup de lecture. Mais un livre que j'ai bien aimé, c'était Make Big Happen, dans la catégorie des livres d'affaires. Donc, c'est un livre qui m'avait été remis au gala du Profit 500 que j'avais pas lu jusqu'à tout récemment. Puis ce livre-là est très intéressant. Il a été écrit par un gentleman qui s'appelle Mark Moses. Puis on apprend beaucoup de concepts pour améliorer l'efficacité des organisations, comme plusieurs autres livres là, qui parlent d'affaires. Mais spécifiquement, ce livre-là est très, très bien écrit dans un langage simple. Puis il parle aussi des concepts là, de redonner à la société. Bref, c'est un beau livre, c'est un beau starting point. C'est bien qu'ils ont fait la promotion de ce livre-là pour les CEO puis les C-suites du Profit 500. Sinon, je te dirais que dans les livres un petit peu plus de détente, j'ai beaucoup aimé le livre de Michel Jean, Koukoum, je pense qu'il est sorti l'année passée, qui nous plonge dans une longue histoire d'amour et de liberté entre une orpheline et un jeune homme des Premières Nations Innus de Pequakali.
Intéressant, j'ai entendu parler de ce livre-là également. Je pense que c'est mon père qui m'avait parlé de tout ça, donc je vais jeter un petit coup d'œil. Podcast, en écoutes-tu un peu?
Oui, j'écoute le podcast Law Bite. C'est le professeur Michael Geist en anglais qui tient ce podcast-là. Donc, c'est vraiment pour m'éduquer sur le monde juridique dans les télécommunications. Donc, Michael Geist est professeur là, à l'Université d'Ottawa en droit, Et c'est la Bible, là, littéralement, là, au niveau juridique, pour tout ce qui a rapport avec les télécommunications ou le broadcast. Donc, il va discuter d'enjeux comme le fameux projet de loi C-10 pour la censure du web, puis s'assurer que les géants du numérique vont payer des taxes au Canada, etc., etc. Donc, super bon podcast là, pour se tremper le gros orteil dans l'univers juridique des télécommunications, puis c'est abordé avec beaucoup de sérieux aussi. Là. Donc, c'est pas un peddler là, qui va dire n'importe quoi. Là. C'est un monsieur qui est très éduqué puis qui connaît très, très bien là, son sujet.
Intéressant. Je terminerai routine. Ça ressemble à quoi ta routine avant, pendant et après le travail?
Ben écoute, je suis un sportif, donc moi je suis une boule d'énergie, là. Il faut tout le temps que je bouge. Je te dirais que ma journée, ça commence pratiquement tout le temps avec une grande tasse de thé vert, avec un petit scoop de matcha. Je suis pas un gars de café, je suis un gars de thé, donc je prends ça, puis ça start la machine, comme on dit. Puis après ça, je vais au bureau en bicyclette. Évidemment, là, de ce temps-ci, on y va moins, là, mais j'y vais quand même au moins une fois semaine, si c'est pas plus. Un petit trip de 40 km sur mon bicycle. Durant la journée que je fais du télétravail, ben je fais toujours du sport d'haute intensité. Donc ça, c'est nécessaire à mon équilibre puis pour j'utilise le terme flusher là, tout le stress puis repartir en neuf. Donc c'est ça. Puis sinon, ben durant le jour, je passe énormément de temps à rentrer en contact, à lire les feedbacks, les évaluations que les gens tiennent à propos de notre marque e-box. Donc je vais sur des forums, je vais sur les Google Reviews, je vais sur nos plateformes internes pour voir les chats, les conversations que les gens ont eues avec notre staff. Puis des fois, je fais même des appels téléphoniques sortants. J'appelle chez des clients qui ont eu des interactions avec nous autres.
Oh, wow.
Ouais. Ça me permet de savoir est-ce que ça va bien. C'est mon baromètre. Je me fie à mon équipe aussi. J'entends des rapports, puis on se parle de tout ça, mais j'aime ça être aussi témoigné aux premières loges de l'expérience. Encore une fois, tu sais, je le dis, c'est probablement à cause du fait que on a commencé à faire le service nous-mêmes dans le passé. Puis c'est une vieille habitude qui est restée ancrée puis qui ne me quitte pas.
Intéressant. Ben, j'adore ce que tu dis. Je crois que de toujours avoir du feedback client, c'est bon pour n'importe quel chef d'entreprise. C'est une information qui va te donner un bon indicateur sur la pérennité de ton organisation parce que t'as beau aller chercher des clients en tant qu'entreprise, tes clients ne restent pas ou ne reviennent pas selon ton modèle d'affaires. T'es dans le trouble. Donc, c'est important de t'assurer que ces clients-là sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont avec l'entreprise. Jean-Philippe, si on veut en apprendre plus sur e-box, j'imagine site internet, ça serait l'endroit le plus facile pour vous rejoindre.
Oui.
Merveilleux. Puis toi, personnellement, est-ce que tu es un petit peu actif sur LinkedIn, les médias sociaux ou plus ou moins?
Je te dirais que je suis pas mal sur toutes ces plateformes-là. Je suis joignable si vous avez des choses à discuter.
Bon, ben merveilleux. Ben Jean-Philippe, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que tu as donné beaucoup d'informations à l'audience, autant au niveau du monde des affaires que de la réalité du consommateur pour le monde des télécommunications à l'heure actuelle. Donc, je te remercie profondément. Et pour les gens qui nous écoutent, ben, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. On termine aujourd'hui un 95e épisode du podcast et force est d'admettre que la qualité des invités continue à monter semaine après semaine. E-box est un leader canadien depuis plusieurs années dans sa catégorie et j'ai trouvé fascinant d'entendre que pour performer dans cette industrie, ça prend plus que des techniques de marketing, mais également beaucoup de lobbying auprès des instances gouvernementales. Clairement, un autre type de modèle d'entreprise qui fut fort intéressant à décortiquer. Également, continuez de m'ajouter sur LinkedIn. J'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez des super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.